Selon plusieurs sources, il serait né le 9 janvier 1895. Certains disent au Maroc, à Tanger, d'autres à Safè, David et Kabbaliste, ou encore à Brest-Litovsk, en Biélorussie. Personne ne connaissait son véritable nom. Ses amis et les étudiants l'appelaient Monsieur Chouchani ou, plus rarement, Professeur Chouchani. Mais il se sera appelé Mordechai Rosenbaum, à moins que son nom soit Hillel Perlman. Elie Wiesel et le philosophe Emmanuel Levinas revendiquent l'héritage de ce mystérieux enseignant autodidacte. Un documentaire intitulé « L'énigme Chouchani » s'aventure sur les terres de ce très étonnant personnage pour en trouver beaucoup de réponses et encore davantage de questions. Pour en parler, son auteur, Michael Greenspan. Michael, bonjour.
Bonjour Samuel.
Tout d'abord, pouvez-vous nous dire en quelques phrases qui est ce mystérieux Monsieur Chouchani ?
Un des personnages les plus mystérieux de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas moi qui dresse la liste, il fait partie de cette liste des 10 plus mystérieux au monde. Et cette liste comprend le masque de fer, par exemple. C'est un mythe, c'est un personnage, on va dire, féerique, un ange, un démon. A-t-il existé ? Était-il juif ? Pas juif ? Séfarade ? Ashkénaze ? Était-il une hallucination ? Il y a toutes ces questions autour de ce personnage. Et ce qui est étonnant, c'est que le mythe rejoint la réalité dans le sens où, comme vous l'avez dit, certaines grandes figures du judaïsme du XXe siècle ont témoigné l'avoir rencontré, non seulement ça, mais ont affirmé qu'il a changé leur vie. C'est le cas d'Elie Wiesel qui disait « Je ne serai rien sans M. Chouchani ». Elie Wiesel, quand même, prix Nobel de la paix, grand écrivain, qui a failli être par deux fois le président de l'État d'Israël, et il a refusé. Et le grand philosophe Emmanuel Levinas, qui disait « J'ai rencontré dans ma vie deux génies, Heidegger, le nazi, et M. Chouchani, que personne ne connaît ». Donc, ces personnes étant sérieuses, crédibles, on pourrait croire qu'il a vraiment existé.
Il était précisé, un savant par sa légende, Chouchani. Is out of reality, so to hear this.
C'était un génie, n'est-ce pas?
In lui.
Ou aya gam yotzer.
Un cochon.
Père Adam.
C'était un diable.
אמרתי למנואל לוינס את המשפט הזה, העולם מתחלק לשניים. לאלו שהכירו את שושני ואלו שלא הכירו את שושני.
No, I wouldn't be who I am. Elle est tombée, Chouchani.
Avait-il donné des cours de physique nucléaire?
He was dangerous.
Masque l'O-Enoshi. L'O-Enoshi.
Et c'est ça qui m'intéressait, si vous voulez, c'est ce dialogue entre le mythe et la réalité. Il semblerait qu'il y ait vraiment eu cet homme, Monsieur Chouchani, qui savait tout. Qui connaissait des milliers de livres, qui connaissait une trentaine de langues, qui était pauvre, mal vêtu, repoussant, qui dormait sur les bancs, qui transformait les gens. Certains l'ont surnommé le Socrate juif.
Socrate parce que Socrate n'écrivait pas et qu'en fait, pendant très longtemps, avant qu'arrive votre documentaire, on imaginait un Chouchani enseignant, limité à une parole orale, sans écrit.
Voilà, alors attention, spoiler là, si vous n'avez pas encore vu le film, attention, on va révéler quelque chose. J'ai effectivement trouvé les écrits de Chouchani il y a bien longtemps, et ça change tout. C'est-à-dire, on ne peut plus parler simplement d'un mythe puisqu'il a laissé des milliers de pages. C'est un peu, si vous voulez, comme on parle de Shakespeare, d'accord, on ne connaît pas exactement l'identité Shakespeare, mais la première chose à faire si on veut être sérieux sur Shakespeare, c'est de lire Shakespeare. Or, M. Chouchani a laissé des milliers d'écrits, et passionnants, de philosophie, sur sa vie, sur ses amitiés, sur son parcours, sur l'actualité, vous voyez, sur la science, etc. Et on ne peut plus parler de lui comme s'il était juste, Eliyahu, le prophète Élie, ou un démon. Enfin, voilà, c'était un intellectuel, c'était quelqu'un qui vivait pour le monde des idées. Et on ne peut l'approcher, selon moi, que par l'étude de ses textes.
Et quand avez-vous entendu parler pour la première fois ?
Alors, j'étais adolescent, je suis né à Paris, vous savez, et j'avais entendu parler vaguement du mythe par Elie Wiesel, voilà. Mais j'en savais pas
plus.
Wiesel
en parle, lui consacre plusieurs pages dans son autobiographie.
Tout à fait. Mais pour moi, vraiment, le déclic a été une rencontre dans un kibboutz en Israël. J'ai rencontré un vieil homme qui m'a dit, qui m'a parlé avec des éclairs dans les yeux, vraiment, de son maître. Et il disait qu'il n'y a personne qui l'approchait. C'est-à-dire, en général, ceux qui parlent de lui, c'est toujours en des termes, des superlatifs. Le professeur Rosenberg dit « Le monde se partage en deux, ceux qui ont connu Shushani et ceux qui ne l'ont pas connu. » Et donc, à l'époque, je pensais qu'il n'y aurait aucune information, vraiment aucun document sur ce mythe. Mais je pensais que, vu l'empreinte qu'il a laissée sur ses élèves, ça valait la peine quand même de faire un documentaire. Mais je m'en suis beaucoup trompé sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire que j'ai trouvé en fait trop de documents, trop d'informations, trop d'histoires, trop d'enseignements. Et la difficulté a été de créer un documentaire d'une heure et demie. Parce qu'il a fallu jeter 90% de ce que j'ai trouvé, vous voyez, au montage.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots un petit peu quel est l'apport de Shushani à la pensée juive? Par exemple, dans le cas d'Emmanuel Levinas, il semble très clair qu'il a remis le Talmud au centre de la pensée d'Emmanuel Levinas d'une manière qui n'aurait peut-être pas été possible sans Shushani.
Tout à fait. Alors, Emmanuel Levinas le disait lui-même. Hein, il disait qu'il avait transformé tous les enseignements qu'il transmet dans ses leçons talmidiques viennent de M. Shushani. Alors, parfois, il ne dit pas son nom, il dit « mon maître prestigieux », vous voyez. Ce qu'il a apporté, c'est non seulement il a redonné les lettres de noblesse à ces vieux écrits vermoulus, selon Levinas, il a montré qu'il y avait un génie de la pensée juive, talmudique, et que c'était une vision du monde, c'était un univers à approcher. Mais ce qui est intéressant, c'était d'abord son approche. Chez tous ses élèves, il commençait par casser l'ego. Il commençait par leur montrer que lui, le clochard, le sans domicile fixe, en savait plus qu'eux. Il a plus lu, il connaissait plus de langues, il avait un esprit tellement incroyable, il jonglait avec les concepts, qu'il humiliait ses élèves. Certains n'appréciaient pas d'accord, mais d'abord cette approche. Mais c'était sa façon de faire, casser l'ego, nous souvenir toujours qu'on n'est pas grand-chose en tant qu'être humain. Il aimait particulièrement le verset du livre de Job qui dit « Nous ne sommes nés que d'hier et nous ne savons rien ». C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, que nous soyons un jeune enfant ou un grand professeur d'université, finalement, notre connaissance est limitée, extrêmement limitée. On dépend tellement de facteurs sociaux, etc. Et lui, qui ne faisait partie d'aucun cadre, vous voyez, il n'était pas ni ceci, ni cela, il n'avait pas de prestige, ni universitaire, ni rabbinique, d'ailleurs. Il n'était pas un rabbin. Il était là pour casser tous les modèles de pensée. Donc, la première chose chez les élèves, il leur apprenait la modestie, recommencer à zéro, oublier tout ce que vous avez vu. Et la deuxième chose, c'est la question. Il apprenait à ses élèves à interroger le texte encore et encore, toujours voir d'une différente optique. C'est assez juif. J'ai divisé mon documentaire sur les quatre modèles d'interprétation, le pshat, c'est-à-dire le sens... littéral, l'interprétation, le drash, le remes, c'est l'allusion, et le sod, enfin, c'est le secret. On arrive au secret après beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Mais M. Shushani faisait beaucoup plus que quatre interprétations. On dit qu'il pouvait passer des heures sur un seul verset ou sur un seul mot. Il pouvait donner des conférences de plusieurs heures sur un seul concept, et passionnante. J'espère pouvoir transmettre un peu de la passion que soulevait M. Shushani dans ce film.
M. Shushani nous a raconté avoir été arrêté pendant la guerre. Il est emmené à la Gestapo, qui lui dit « Vous êtes juif ?» Il dit « Mais non, je ne suis pas juif. » On le déculotte, on voit qu'il est circoncis. « Vous voyez bien, vous êtes juif. » Il dit « Non, je suis musulman. » La Gestapo a fait venir un imam qui s'est enfermé avec M. Shushani dans une pièce. Et au bout de 2 heures, l'imam aurait dit à l'officier de la Gestapo « Cet homme est évidemment musulman. Jamais je n'ai autant appris sur le Coran en 2 heures qu'au cours de cette conversation. » Donc voyez l'étendue...
Vous croyez cette histoire ?
Je la crois. Pourquoi pas ? Je ne soupçonne pas M. Shushani d'avoir voulu se vanter.
Sa biographie est complètement floue.
Alors, puisqu'on parle de secret, il y a le mystère des origines de Shushani, qui est assez vertigineux. C'est-à-dire qu'en fait, On ne sait pas d'où il vient. Mm-hmm. Mais vraiment, ça ne se joue pas, on va dire, entre deux bourgades d'Europe centrale. Hein. Ça se joue entre la Biélorussie et le Maroc. C'est-à-dire que c'est pour le moins éloigné. On ne connaît pas son véritable nom. En fait, on ne connaît presque rien. Mm-hmm. Donc, du coup, où en êtes-vous après votre travail documentariste sur les différentes hypothèses chouchani?
Alors, mon approche est plutôt celle de ces élèves très proches qui l'ont côtoyé et qui ne lui demandaient pas son véritable nom. Parce que, en fait, si vous voulez, effectivement, il est né sous une certaine identité quelque part. Mais finalement, qu'il soit Ashkenaz séfarade ou non-juif, d'ailleurs, c'est une des hypothèses qu'il était peut-être non-juif ou mamzer, vous savez, il ne voulait pas qu'on s'intéresse à la biographie individuelle. Il pensait que c'était un peu de la médisance, du voyeurisme. Il voulait qu'on parle de grandes idées. Dans ses écrits, j'ai trouvé énormément d'informations que personne au monde ne connaissait, parce que son jardin secret, si vous voulez, c'était ses écrits. Alors, par exemple, une des hypothèses les plus fréquentes était celle de Hillel Perlman, comme vous avez dit. C'était Hillel Perlman existait, un élève du Rav Kook. C'est fantastique. On connaît Hillel Perlman, on connaît sa famille. Le Rav Kook a écrit deux lettres à Hillel Perlman. Sauf que dans les milliers de pages de M. Chouchani, il n'y a pas une seule fois une référence au Rav Kook. Alors, est-ce que c'est possible qu'un élève qui aurait étudié quelques années avec le grand rabbin Avraham Yitzhak Kook ne le mentionne pas une seule fois dans ses écrits? Vous voyez, c'est pour ça que je pense que vraiment, il faut revenir un peu à la base, étudier ses textes, et on apprend beaucoup de choses sur son parcours, sur ce qu'il aimait, sur ce qu'il pensait, et certains y travaillent.
Mais comme il y a de la même façon qu'il y a plusieurs écoles talmudiques, écoles de pensée juive, on va dire qu'il y a plusieurs partis pris sur Chouchani.
Exactement.
Donc vous, quelle serait à peu près votre option sur Chouchani? Déjà, est-il Ashkenaz ou séfarade? je veux dire, quel serait son véritable nom? En fait, voilà, si vous aviez à mettre une pièce, où la mettriez-vous?
Vous me relancez sur cette question et je vais donc répondre à peu près de la même façon. Son nom était ce n'est pas important. Il fuyait cette question parce qu'il savait que notre mode de pensée en tant qu'être humain, c'est de mettre les gens dans des boîtes. À partir du moment où on connaît le nom de quelqu'un, son âge, sa profession, on pense tout savoir de lui. Or, nous sommes bien plus que ça. Nous avons peut-être une âme. Nous sommes un infini. Ça, c'est un des messages d'ailleurs de Lévinas. C'est qu'à travers le visage, c'est une porte vers l'infini. C'est ça. Il voulait nous faire réfléchir, nous dire tout ce que vous pouvez penser sur moi, oubliez. Vous vous tromperez toujours. Donc, je préfère rester. C'est ça, sa véritable identité.
Alors, il fallait quand même un sacrifice du romanesque pour y parvenir.
Oui, il a réussi.
Il a réussi au-delà de... Enfin, je veux dire, c'est champion du monde, au moins à ce niveau-là.
Il n'est pas possible qu'un homme ait parcouru les quatre coins du monde pendant des années, anonymement, et influencé tant de personnes devenues célèbres. Peut-être s'agit-il de plusieurs individus que l'imaginaire collectif aurait fusionné en un seul héros mythique. Le seul moyen de percer ce mystère, selon moi, c'est de revenir sur les faits. Si cet homme a réellement existé, il a forcément laissé des traces.
Alors, ce que je me demande maintenant, c'est, une fois que vous avez réussi à trouver l'essentiel sur Chouchani, c'est en fait pas tant ses mystères que retrouver ses écrits, quel est l'avenir de Chouchani, ou du moins des études sur Chouchani, après votre documentaire?
Il y a une élève du professeur Rosenberg à Jérusalem qui a déjà écrit une thèse.
Le professeur Rosenberg donc, était élèves de Chouchani.
En fait, il est mort dans ses bras, il faut dire. Et c'était un professeur de philosophie, aussi extrêmement cultivé dans plusieurs domaines, et qui est extrêmement connu en Israël. Et donc, une élève du professeur Rosenberg écrit une thèse de doctorat en ce moment même. Elle avait déjà écrit une thèse de premier cycle. Donc c'est un langage universitaire, c'est pas forcément facile d'accès. Il y a aussi quelqu'un qui travaille à la Bibliothèque nationale d'Israël à plein temps, Dr Lang. Il y a aussi des kabbalistes qui travaillent.
Il est important de préciser, du moins dans ce qui transparaît des écrits de Chouchani dans votre documentaire, que ce n'est pas du tout accessible au commun des mortels.
Non. Voilà. C'est codé, ça demande beaucoup de travail. Il avait sa façon à lui d'écrire. C'est-à-dire que parfois les rabbins ont vous savez, leurs lettres. Mais lui, c'est spécial. C'est pour ça que ça ne marche pas aussi. On me pose souvent la question de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle étant basée sur les statistiques, lui, il ne rentre pas dans les statistiques. Voilà, lorsqu'il mêle dans une même phrase la science et les psaumes, la Torah, etc., c'est extrêmement rare. Il n'y en a pas d'autres comme lui. En tout cas, donc, beaucoup de monde y travaille et il y aura des livres, des thèses. Il y a déjà des cours. Il y a déjà des cours sur ces enseignements. Et alors, le problème, c'est que c'est très pointu. Il faudra aussi, j'envisage peut-être de faire un travail de vulgarisation à mon petit niveau, ce que j'ai pu comprendre, peut-être le publier.
Michael Greenspan, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour une émission cinéma sur Académie.